À quelques heures du match entre les Raptors et les Nets du New Jersey ce soir au Centre Bell, bien, ce qui devient le sujet du jour, c'est non pas cette exhibition entre deux clubs professionnels de la NBA, mais la démarche entreprise par le banquier Michael Fortier, qu'on a connu également en politique, visant à amener ici à Montréal une concession de la NBA, flanquée de quelques partenaires. Eh bien, il a présenté le projet au public aujourd'hui, officiellement pour une première fois. Michael Fortier est avec nous en studio. Bonsoir, Michael, et bienvenue aux amateurs de sport.
Merci, Mario. Merci.
Dites-moi, pourquoi ça serait si important d'avoir deux autres équipes professionnelles dans le marché de Montréal, comme le retour du baseball, vous êtes pour, et l'arrivée d'une équipe de la NBA? Est-ce que ça nous manque à ce point-là?
Ben, pour les amateurs de sport, absolument. Et pourquoi on s'en priverait? Moi,
je fais l'avocat du diable, j'allais m'initier
de sport. Très bon, vous êtes très bon.
Merci.
Vous êtes très bon. Le barreau a besoin de plus de gens comme vous, je suis sûr. Mais plus sérieusement, Montréal peut se permettre facilement deux autres équipes, ça j'en suis convaincu. Je suis moi-même un maniaque de baseball et je vais assister à des matchs tous les étés partout en Amérique du Nord. Montréal, elle a connu une croissance économique, on le sait, on voit les statistiques, mais elle a connu aussi une croissance dans sa richesse. Alors, il est possible maintenant, il faut arrêter d'avoir cette vision de Montréal de 1900, je ne sais pas quelle année, 98-99, où on avait de la misère avec les sièges sociaux. Il y a une nouvelle économie à Montréal. Les sociétés qui ont déjà des loges, par exemple, au Centre Bell, n'annuleront pas leur loge au Centre Bell pour aller au baseball ou celle du baseball pour aller au basket. Moi, je pense que tout le monde cherche une offre variée pour divertir ses clients. Là, je parle dans les loges. Mm-hmm. Et quand je parle des spectateurs, il y a tellement d'amateurs de basket au Québec. Vous les connaissez probablement un peu moins parce que c'est moins dans votre créneau ici à 98,5 parce que le basket, c'est pas un sport que vous suivez. Mais le basket, il est joué, il est pratiqué partout au Québec, dans nos écoles, dans nos parcs. Il est suivi et on a une population jeune, multilingue, multiculturelle qui est parfaitement adapté à la démographie du basket.
Mm-hmm. Moi, je crois au projet dans le sens que je pense qu'il y aurait des spectateurs dans l'amphithéâtre. Là où j'ai du mal à y croire, c'est au point de vue financier. Et je me dis qu'on est 15-20 ans en retard. Parce qu'au prix que sont rendus les concessions, peut-être même avec le baseball, on l'a laissé partir notre franchise. Bye-bye. Essaye de la ramener maintenant. Puis sort le carnet de chèque. C'est pas fait encore. On rêve encore. Mais au basketball, on n'a jamais eu vraiment de démarche. Mais je regarde 2 milliards. Vous avez déjà identifié un investisseur québécois. C'est génial. Mais c'est parce que ça prend un autre milliard, 750 millions de dollars. Où est-ce qu'on va trouver ça?
Il y a plus de gens que vous croyez qui sont intéressés à faire ce type d'investissement. D'abord, c'est pas juste à Montréal qu'il y a une richesse exceptionnelle qui s'est créée. Il s'en est créé partout sur la planète. Moi, je rencontre des gens dans mon métier à la banque, partout dans le monde, des gens qui ont des fortunes incroyables. Et dans cette sphère de gens, il y a beaucoup de personnes qui cherchent à diversifier leurs investissements et ou qui s'intéressent beaucoup au sport professionnel. Mm-hmm. Et on voit de plus en plus de Nord-Américains qui investissent dans des franchises de soccer professionnel en Europe. On voit les Européens s'intéresser au basket. Et selon moi, on va voir ce croisement de plus en plus. On dit qu'on est dans une planète sans frontières. Ben, c'est pas vrai qu'il y ait des frontières dans le sport professionnel. Nous, on pense que l'argent, elle est là. Il va juste falloir qu'on trouve l'investisseur qui va vouloir s'enrober du drapeau de Montréal et dire, OK, moi, j'embarque avec vous, j'embarque avec Chrétier, et c'est Montréal sur laquelle je mise pour gagner la loterie de l'expansion. Parce que nous, on sait qu'il y aura d'autres villes qui sont intéressées. D'ailleurs, il y a des rumeurs sur plusieurs autres villes. Donc, nous, on est dans une course pour le financement, et nous, on pense que le financement, c'est probablement la partie la moins complexe. La partie la plus complexe pour nous, c'est lorsque la Ligue aura annoncé ces plans d'expansion, c'est comment se distinguer des autres villes qui vont être en lice.
La ligne de contact, ou le contact est établi avec le commissaire de la NBA, Adam Silver, mais lui, il ne vous encourage pas à la poursuivre, votre démarche. Il dit, wow, on fait pas d'expansion. Si je traduis bien le sentiment qui vous exprime.
Tout à fait, vous avez entièrement raison.
Pourquoi ne pas l'écouter, donc? Et pourquoi vous décidez, on va de l'avant pareil?
J'ai raconté l'histoire des Raptors de Toronto et comment ils sont venus au monde. Les Raptors de Toronto, au début des années 90, c'est par la force de Larry Tannenbaum, qui en est maintenant le président du conseil, il a fait le tour des équipes qui ne voulaient pas faire d'expansion. Et essentiellement, il les a convaincus une à une que l'expansion serait une bonne chose et de venir au Canada, c'est une bonne chose. Et à la fin, je pense qu'ils ont payé quelque chose comme 125, 150 millions de dollars. Je reviens à votre point tantôt là, d'avoir investi tôt. Alors, M. Tannenbaum et ses collègues ont été brillants. Mais il faut reconnaître, après 25 ans plus tard, je reviens à la richesse et je reviens aux gens qui désirent diversifier leurs avoirs. Mario, il y a des gens pour qui un rendement sur une équipe de basket n'exige pas du 17% annualisé. Il y a des gens pour qui c'est un investissement symbolique. Ils adorent le sport. Au lieu d'avoir 2 milliards d'avoirs personnels, ils en ont peut-être 14. Alors pour eux, c'est un investissement qui n'est pas insignifiant, mais qui ne représente pas pour eux de gager la ferme, to bet the farm, comme disent les Anglais. Et il y en a beaucoup plus de gens comme ça autour de la planète que vous ne le croyez.
Je veux bien vous croire, vous êtes dans le monde de la finance et moi, loin de ça, le monde de la finance, mais quand même, on surveille ça de près. Et tous les grands projets ont eu de la misère à trouver du financement. Le dossier de trouver le champion des expos, là, ça a pris des années avant que finalement les mêmes familles impliquées à l'époque lèvent la main à nouveau. Quand le Canadien s'est retrouvé à vendre, on l'a vendu à un Américain. Je sais bien que dans le dernier processus, il y avait plus de candidats potentiels ici au pays. Mais donc, dans l'imaginaire collectif, là, des milliardaires, il y en a peut-être, mais on n'est pas convaincu qu'ils veulent mettre leur argent là-dedans. Donc, vous parlez vraiment de fortune extérieure. Là.
Bien, on parle de fortune. Moi, j'exclus pas une fortune du Québec, mais je me prépare à accueillir une fortune qui s'allierait très bien avec M. Chrétier. Parce que pas oublier, M. Chrétier, lui, aujourd'hui, il accepte d'être identifié. Il accepte, quand même, c'est pas rien, là, vous dites c'est juste 10 % mais 10 % de 2 milliards, c'est quand même 200 millions de dollars US.
Alors, Monsieur Chrétier, je reste pas là-dessus.
Non, mais on sent. Bon, alors, donc, on jase. Donc, lui, il accepte, mais lui, c'est pas un chèque en blanc où il va travailler avec n'importe qui. Alors, lui, il veut comprendre qui sera son partenaire, qui seront ses partenaires. Donc, nous, on l'a tenu au courant. Donc, il va falloir tenir compte de cette donne aussi. Monsieur Chrétier a une entreprise qui opère dans 33 pays, 65 000 employés. Monsieur Chrétier est capable de travailler avec à peu près n'importe qui sur la planète, que ce soit quelqu'un d'ici ou d'ailleurs. Donc, je pense qu'on a le bon profil. Nous, on se limite pas à des fortunes canadiennes. Et d'ailleurs, les discussions qu'on a depuis les 6 à 9 derniers mois, je vous dirais que ce sont surtout des gens à l'extérieur du Canada avec qui on est en pour parler.
Jeff Molson, veut-il investir?
Jeff Molson, pour l'instant, il a l'immeuble. Et je lui ai parlé dès le début. Vous comprendrez que c'était assez évident. Moi, je pense que ce qui est attrayant de ce projet, entre autres, c'est qu'on ne veut pas, on ne demande pas d'argent public. Et les gens qui vous écoutent, ah, encore une fois, non. Il n'y aura pas d'argent public.
Ben, le building est là.
Le building est là. Les investisseurs, ils demanderont pas Investissement Québec ou la Caisse de mettre 3-4 millions. On ne parle pas de ça. On est complètement privé. Mais la clé, c'est l'immeuble. Et nous, on n'a pas... Moi, je suis très transparent avec vous. Il faut que ça marche avec le Sandbell. Monsieur Molson, dans mes conversations avec lui, m'a dit qu'il s'assoirait, bien entendu, avec une équipe de propriétaires qui voudraient implanter une équipe de basket à Montréal pour discuter avec eux, de la possibilité de tenir les matchs au Centre Bell. S'il y avait la possibilité là, d'avoir 45-50 dates fixes pour lui dans son immeuble, sous réserve de s'entendre sur un loyer et les autres modalités, mais je pense qu'il serait d'accord avec ça.
Donc, même si ça vient peut-être potentiellement lui arracher des clients de loges, c'est pas tout vendu les loges en ce moment au Centre Bell, là. Et je connais très près des gens qui ont travaillé pour le Canadien. Ray Lalonde, pour n'en citer qu'un, qui est chroniqueur sport business, qui a été le VP. Et vous pouvez lui parler des longues démarches pour tout vendre les loges qui étaient invendues pendant des années. Je sais pas si on sous-estime pas cet aspect-là de la force du marché local, des compagnies, des entreprises. Là, on sort du client traditionnel qui achète sa paire de billets, là, d'acheter des loges à des prix astronomiques, là, 200 000 par année, la loge et plus.
Ouais, ça, au niveau des loges, je vais laisser peut-être les gens du Canadien. Moi, je suis pas assez informé sur qu'est-ce qui se passe au niveau des loges. Je vous dirai ceci. Moi, qui est dans le milieu du service et qui, moi, j'ai la chance d'avoir une loge au Centre Bell par l'entremise de mon employeur, je peux vous dire que nous, à l'occasion, les clients cherchent une diversité dans le divers. Ils cherchent d'autres options dans le divertissement. Et c'est pas qu'ils n'aiment pas le hockey. Ils veulent pas le hockey 45 fois durant l'année.
C'est du déjà vu.
Ben, c'est pas juste déjà vu. Ils voudraient y aller, oui, mais avoir une autre option, avoir l'option d'aller au basket et avoir l'option d'aller au baseball. Et je reviens sur la question de l'économie parce qu'on nous a souvent posé la question cet après-midi. Je pense qu'il faut prendre acte que Montréal est ailleurs. Si vous regardez dans la liste des 50 villes les plus importantes en Amérique du Nord, Montréal est en tête de liste au niveau de sa population et de sa force économique comme ville qui n'accueille qu'un sport professionnel. Dans la liste, sur 49. Et si on ajoute une autre équipe, deux équipes, je pense qu'on est 12e. En ajoutant une troisième équipe, il y a quand même encore 22 équipes en dessous de nous, même en ayant trois équipes qui ont moins de bassins, moins de force économique. Alors, moi, je dis, écoutez, puis je fais pas une critique, vous posez d'excellentes questions, Mario. On est rendu ailleurs au Québec. On est capable d'appuyer plus qu'une équipe. On est capable d'en appuyer plus que deux. Et j'espère de tout cœur qu'on aura et le baseball et le basket à Montréal bientôt.
Vous en parlez avec beaucoup de passion. Et là, je pensais pendant vos derniers propos à Joey Saputo. Quand il vous entend dire comme promoteur d'une équipe de basket à Montréal, dire qu'il y a une équipe professionnelle à Montréal, il doit avoir envie de s'assassiner sur le bord puis de composer le cellulaire puis la ligne en studio. Il y a quand même l'impact de Montréal, de la MLS. Il y a les Alouettes, vous allez me dire, c'est la Ligue canadienne. Je comprends que c'est pas la même dimension, la même envergure qu'une NFL, par exemple. Mais il y a déjà d'autres équipes de sport professionnel. Et on peut pas dire que c'est plein à rabord. On peut discuter de la manière que c'est géré. Il y aurait peut-être moyen de le remplir si on le gérait autrement. Mais il y en a qui ont l'impression. Joey Saputo a déjà dit il y a pas si longtemps, le buzz n'est plus là pour l'Impact de Montréal. C'est pas facile pour l'Impact de Montréal. Alors pourquoi qu'on envisagerait des projets de bien plus grande envergure comme quelque chose de relativement facile?
D'abord, vous avez absolument raison de souligner la présence des Alouettes et de l'Impact. Quand je vous parlais des 49 villes, moi, je parlais des quatre sports professionnels majeurs. Je pense que M. Saputo, il va reconnaître que la MLS n'est pas encore toujours reconnue comme un de ces sports-là. Mais
elle le devient. Là.
Absolument. Il n'y a aucun doute dans mon esprit.
Vous avez regardé le prix des franchises. On n'est pas à 2 milliards, mais
non,
quand
non,
même,
non,
ça
tout
grimpe.
À fait. Absolument. Absolument. Vous avez raison de le souligner. Mais quand on regarde les analyses que font les Forbes de ce monde, on regarde les quatre grandes équipes. Et c'est à ça que je faisais référence.
Très bien.
Alors, donc ça c'est un. Deux, les difficultés que peuvent à l'occasion connaître d'autres équipes ne devraient pas nous motiver par rapport au projet d'une équipe de la NBA. D'abord, parce que ce sont des intérêts privés. On a un très bon laboratoire avec M. Chrétien. Quand j'ai rencontré M. Chrétien pour la première fois pour lui parler de ça, il y a plusieurs mois, M. Chrétien avait des doutes. M. Chrétien, c'est comme je le disais tantôt, c'est un entrepreneur à succès, un homme qui sait compter. Et il a fallu qu'il comprenne le modèle économique. Il a fallu qu'il comprenne la base de fans à Montréal. Mm-hmm. Il a fallu qu'il comprenne le modèle économique de la NBA. Il a fallu qu'il comprenne le modèle potentiel au niveau de la télévision, les revenus de télévision. Et une fois qu'il eut compris cela, à ses yeux, il n'y avait pas de doute que ça réussirait. Et nous, on pense qu'il y a un autre Stéphane Chrétien qui est là, avec le plus gros chèque.
Est-ce que le but, c'est de le réveiller aujourd'hui par cette conférence de presse?
Ben, je pense pas, parce que je pense que la diffusion de notre conférence de presse, elle va être vaste, là, mais nous, on s'adresse à un chantier qui est global, donc, ça nuira pas.
Mais l'intention première, là.
On avait, aujourd'hui, mais on avait beaucoup de demandes à cause du match des Raptors et les Nets.
OK.
Avait fait un petit peu de bruit, vous l'avez mentionné tantôt. Et là, M. Chrétien était prêt à être identifié. Alors, pour nous, je pense que c'est un bon rapport d'étape, mais comme on a dit tantôt, puis je vous le dis maintenant, on a encore beaucoup de travail à faire. Le gros chèque, il faut aller le chercher, il faut se préparer. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans l'ombre et ce n'est pas le travail qu'on a tous, chacun dans l'équipe, comme à temps plein. Moi, je suis un banquier à temps plein et ça, c'est quelque chose que je fais avec d'autres collègues où je vais investir quelques heures ici et là. Mais la Chambre de commerce a été un partenaire exceptionnel. Elle nous a permis de bien diriger nos efforts, surtout au niveau de la force économique de Montréal. Bien entendu, eux autres, ils ont toutes les données, toute l'information. Monsieur Leblanc est un porte-parole exceptionnel pour Montréal. Je l'ai amené rencontrer des investisseurs potentiels et Monsieur Leblanc, il est exceptionnel. Il parle de Montréal là, comme beaucoup de politiciens devraient parler de Montréal.
Michael Fortier, merci beaucoup d'être venu nous expliquer la démarche. On a très hâte de voir quel sera le suivi de tout ça. Bon match de basket ce soir au Centre Bell.
Merci, Mario.
Merci. Au revoir. Michael Fortier, donc promoteur de cette décidé d'amener ici à Montréal une équipe de la NBA. Dans quelques instants, Ray Lalonde, notre chroniqueur sport business, va analyser le début de cette démarche-là et où est-ce que ça pourrait aboutir.